Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Déborah, bonjour.
Bonjour Virginie.
J'espère que vous allez bien.
Je vais très bien, merci. Et bon, vous?
Très très bien, très très bien. Toujours, quand je suis avec vous, il y a toujours plein de choses que j'intègre dans mon alimentation variée, nouvelle. C'est vrai que c'est toujours un vrai plaisir. Et cette semaine, votre émission nous emmène vers un chemin que vous aviez déjà expérimenté et qui est tout à fait d'actualité, Déborah, puisqu'il s'agit de la santé mentale. Et notamment, vous allez nous parler de l'impact de la nutrition sur la santé mentale.
Oui, comment l'alimentation affecte-t-elle notre humeur en réalité?
Oui.
Effectivement, je parle beaucoup de santé mentale ces derniers jours parce qu'il y a quelques semaines, c'était la semaine de la santé mentale. Mm-hmm. Pour ne pas parler de toutes ces injonctions mentales que nous pouvons avoir dans notre vie, j'aimerais parler, pour le coup, pour une fois, on va dire, de nutrition de façon un peu plus spécifique. Parce que lorsque nous pensons à notre alimentation, très souvent, et à tort, nous pensons souvent à un impact sur notre corps, notre poids, notre énergie, notre santé physique. Alors, tout cela est vrai. Mm-hmm. Cependant, ce que nous mangeons a également un impact significatif sur notre santé mentale et notre bien-être émotionnel. L'alimentation joue un rôle essentiel dans la régulation de notre humeur, de notre anxiété et sur le niveau de notre stress. Et donc, dans cette émission, aujourd'hui, j'aimerais que nous explorions un peu en détail comment l'alimentation peut influer notre humeur et par quels moyens ça impacte notre humeur de façon générale.
Alors, vous allez nous parler du chocolat, qui est un anti-stress, peut-être.
Ça, c'est chouette. Ça, c'est une idée, ça, je pense. Hein.
Oui.
Alors, après... oui et non, parce que le chocolat est très riche en magnésium, et on va le voir.
D'accord.
Chocolat noir, j'entends.
Oui, bien sûr. Ah bah oui, moi je ne mange que du 85% minimum, Déborah.
Et voilà.
J'écoute les conseils de Déborah. Bon, super Déborah. Alors pour vous éviter de vous couper sur vos précieux conseils, je vais faire la pause tout de suite, et on va prendre le temps ensuite de comprendre comment l'alimentation affecte la santé mentale. J'en profite pour vous signaler que si vous voulez réagir ou poser tout simplement des questions à Déborah, eh bien vous composez directement le 06 66 94 59 02, ou vous allez sur la page de contact du site nutriradio.fr.
Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Vous êtes sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Si vous nous rejoignez, nous sommes avec Déborah. Et le thème du jour est « Quel est l'impact de la nutrition sur la santé mentale ou comment l'alimentation affecte-t-elle notre humeur ?» Alors Déborah, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer le lien entre les neurotransmetteurs et l'alimentation ?
Évidemment, puisque pour comprendre comment l'alimentation affecte la santé mentale, il me semble important de se pencher sur les neurotransmetteurs, notamment la sérotonine et la dopamine. Ces noms, peut-être, vous disent quelque chose.
Oui, c'est des amis, il paraît. Il paraît, tout ce qui est en
oui.
In, c'est des amis.
Oui, c'est un peu la même famille émotionnelle, enfin, de neurotransmetteurs. Et en fait, ce sont des produits chimiques du cerveau, c'est des sécrétions du cerveau. Qui joue un rôle crucial dans la régulation de notre humeur et de nombreux aliments contiennent des précurseurs de ces neurotransmetteurs, c'est-à-dire des minéraux qui vont participer à libérer ces neurotransmetteurs dans notre corps, ce qui signifie que ce que nous mangeons peut directement influencer leur production. Par exemple, la sérotonine, qui est souvent appelée l'hormone du bonheur. Alors, c'est pas vraiment une hormone, mais ça a un peu le même comportement qu'une hormone. On appelle l'hormone, mais c'est un neurotransmetteur. Mm-hmm. Contribue, elle, à la régulation de l'humeur, de l'anxiété et sur le sommeil également. Et donc, les aliments riches en tryptophane, notamment les œufs, le poulet, le poisson, les légumineuses, etc., favorisent la production de sérotonine. Tout à l'heure, vous me parliez de chocolat. Le chocolat est riche en magnésium. Le magnésium est un précurseur de sérotonine. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un peu un anti-stress, mais c'est un raccourci,
oui.
Très raccourci. Mmh. Mais c'est vrai que c'est le magnésium, en fait, qui est un précurseur de sérotonine. Le sucre également est un très grand précurseur de sérotonine, ce qui explique, par exemple, qu'en cas de difficulté d'accueil émotionnel, ce que nous pouvons appeler de l'alimentation émotionnelle, eh bien, beaucoup de personnes se retrouvent à faire des compulsions alimentaires d'aliments sucrés,
oui,
de
oui.
façon à pouvoir apporter un moment de... de souffle,
oui,
de bien-être qui est très éphémère.
C'est ça, oui, les fameux pansements alimentaires, donc l'alimentation émotionnelle dont vous parliez.
Oui. Et oui, j'avais fait une émission l'année dernière aussi sur ça. Donc ça, c'est pour la sérotonine, mais en fait, elle est en équilibre avec la dopamine. La dopamine, elle, c'est un neurotransmetteur qui est associé plutôt à la motivation, au plaisir, à la récompense de façon générale. Donc certains aliments également, comme le chocolat, les avocats, la banane, peuvent stimuler en fait la sécrétion de dopamine dans le cerveau. De toute façon, quand on sécrète de la sérotonine ou de la dopamine, c'est une façon de réguler en fait les quantités de ces deux. C'est-à-dire que si on apporte plus de dopamine, bah forcément la sérotonine va se réguler en fonction de la quantité de dopamine et vice versa. Donc ça peut permettre ça stimule la sécrétion de la libération de dopamine dans le cerveau et ainsi permettre une meilleure concentration, une meilleure attention par exemple. Cela est très présent dans l'alimentation réconfortante, qui est bien à distinguer de l'alimentation émotionnelle, même si la différence est vraiment subtile. J'avais fait un reel récemment sur Instagram sur ce sujet. C'est-à-dire que l'alimentation émotionnelle, c'est vraiment quand on va essayer de ne plus ressentir une émotion, de la faire disparaître à tout prix en allant manger. Et l'alimentation réconfortante, c'est plutôt une alimentation où on va s'apporter du réconfort, on va s'apporter du plaisir à l'alimentation. Mmh. On n'est pas en train de lutter.
Oui.
Et donc, la nuance est vraiment très légère, mais elle est hyper importante. De même que de façon générale, un repas plutôt protéiné va avoir tendance à sécréter davantage de dopamine, ce qui explique pourquoi il est souvent conseillé, par exemple, de favoriser des petits déjeuners plutôt protéinés et des dîners plutôt glucidiques.
Plutôt les œufs au petit-déj, par exemple.
Dans la théorie, de manière générale, c'est plus intéressant parce qu'on a besoin plutôt de dopamine en début de journée pour avoir d'énergie, de la motivation, de la force, etc. Et on a besoin plutôt de la sérotonine pour sécréter la mélatonine, etc. Enfin, l'hormone un peu où on souffle, où on est un peu plus apaisé en fin de journée. Et donc, ça pourrait être intéressant. Sans jamais oublier notre culture, n'est-ce pas, Virginie?
Oui.
Nos appétences, etc. Mais c'est vrai que c'est intéressant. De même que lorsque les personnes se restreignent en sucre, par exemple, ou adoptent des règles alimentaires très rigides et restrictives, qui ont donc du coup des déséquilibres au niveau de ces deux neuromédiateurs, en fait, il y a des perturbations de la relation et du comportement qui se font connaître. Donc, personnellement, en général, c'est des compulsions, les dérèglements du comportement alimentaire. Personnellement, il est très fréquent que je travaille la régulation de ces deux neurotransmetteurs. Moi, je travaille beaucoup ça en micronutrition. Mm-hmm. La micronutrition, c'est tout ce qui est vitamines, minéraux, etc. Parce que l'alimentation pure, c'est juste pour réguler ces neurotransmetteurs quand ils sont vraiment déréglés, c'est un peu limite. Dans un certain cas où vraiment le corps connaît déjà beaucoup de dysfonctionnements, je me sers beaucoup de la micronutrition pour les aider. Mm-hmm. Donc, par exemple, on peut faire des cures de tryptophane, du magnésium, des choses comme ça.
D'accord. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, Déborah, parce qu'il se trouve que j'avais retiré le sucre totalement de mon alimentation dernièrement. Et là, la semaine dernière, allez savoir pourquoi, Charles, j'ai acheté un gros paquet de bonbons. Alors, donc, ça veut dire que j'ai déréglé mes neurotransmetteurs, finalement.
Mais oui. C'est pour ça que, en fait, on a besoin de tous les aliments. Le sucre est important. Ce qui est néfaste dans le sucre, c'est l'excès de sucre. Mmh. Et l'excès de sucre, il se mesure pas sur une fois. Il se mesure sur un ensemble. Et donc, c'est tout le travail, en fait, quand on travaille sur le comportement, c'est de travailler la flexibilité, la souplesse.
D'accord.
C'est pas ou tout blanc ou tout noir.
Donc, vaut mieux manger des marshmallows une fois par semaine plutôt qu'un gros paquet à la fin de la semaine. Quoi.
C'est pas que c'est mieux, c'est que si on s'est restreint de marshmallows pendant X temps, on va avoir du mal à contrôler, à maîtriser la quantité, en fait, à la fin de la semaine.
D'où la semaine dernière, en effet, effectivement.
Le paquet va forcément finir, en général.
Oui, oui. Alors, est-ce que tout ça, finalement, nous amène à une relation entre l'inflammation et l'alimentation, pour le coup?
Bien sûr. Alors, une alimentation qui va être trop riche en aliments transformés et souvent très peu diversifiée, justement, quand on a des désordres alimentaires, quand on a des désordres sur le comportement alimentaire et qu'on se retrouve à avoir des phases de ou tout blanc ou tout noir, ça peut déclencher en fait ce qu'on appelle une inflammation dans le corps, ce qu'on peut appeler des inflammations chroniques ou encore des inflammations de bas grade. Et donc ça, ça peut générer des problèmes de santé, notamment mentale, telles que la dépression, l'anxiété. Mais ça peut également amener en fait à une prise de poids ou une réticence à la perte de poids, générant ensuite un mal-être général. Et donc, en revanche, sans jamais être dans la restriction, mais plutôt dans la flexibilité, c'est important d'adopter une alimentation diversifiée et riche. Alors moi, je conseille tout le temps en aliments bruts, les plus bruts possibles. Donc, c'est-à-dire favoriser les circuits courts, favoriser les choses qui ne sont pas préparées, déjà préparées.
Mais oui, pas de plats préparés, quoi. On fait soi-même.
Le plus possible. Bien sûr, les légumes, les fruits diversifiés, les fruits et les légumes. Les oméga-3 ont aussi une importance capitale dans tout ce qui est inflammation, parce que ce sont des anti-inflammatoires naturels. Et donc ça, c'est pareil, on peut avoir une cure, on peut faire des cures d'oméga-3. Alors après, c'est important ce que je dis là, mais il faut jamais se complémenter tout seul. Il faut tout le temps avoir un avis professionnel pour aller acheter un complément alimentaire, parce que déjà, tous les compléments alimentaires ne se valent pas. Et il peut y avoir des fois des interactions avec des pathologies ou des médicaments qu'on peut prendre et ça ne passe pas. Donc, il faut vraiment être avisé par un vrai professionnel.
Oui. On ne fait jamais ça tout seul, même avec une copine.
Jamais.
Voilà. Et puis, on ne sait jamais. On pourrait très bien aussi prendre des choses qui ne servent à rien au final. Donc, des fois, il vaut mieux aller voir un professionnel qui vous donne un bilan complet et on voit où il y a des manques et puis après, toc, on ajuste.
En fait, c'est que des fois, vous avez des compléments alimentaires qui sont obsolètes, en fait, qui sont mal fichues, en fait, pas bien faits dans la recomposition et qui vont avoir ce qu'on appelle une biodisponibilité pas bonne. C'est-à-dire que ça va être mal assimilé dans le corps, notamment, et beaucoup sur le magnésium, où il y a des magnésiums qui ne servent pas à grand-chose et que c'est beaucoup marketing. Donc, il faut, en fait, optimiser des formes qui sont assimilables, hautement assimilables dans le corps. Donc oui, en fait, vous avez fait référence à la protéine C réactive. En fait, la CRP, la protéine C réactive, c'est un dosage qu'on peut faire en labo et qui est en fait le marqueur de l'inflammation. Et si elle est au-dessus de 5 ou 6 en fonction des critères que vous sélectionnez, en fait, on peut se dire qu'il y a une inflammation dans le corps, une inflammation de bas grade.
D'accord, donc c'est important donc de voir le dosage de la CRP, donc la protéine C réactive.
À mon sens, c'est important, oui.
Très bien. Merci Déborah, en tout cas, nous avoir montré le lien entre inflammation et alimentation. On va marquer une petite pause. Ne bougez pas, vous êtes sur Nutri Radio. Nous revenons dans quelques instants.
Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Nous voici de retour sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Déborah, peut-on parler de la diversité alimentaire? Pourquoi est-ce que c'est essentiel de varier la nourriture et peut-être aussi les plaisirs gustatifs?
C'est très important parce que déjà, il faut savoir que toutes les vitamines, elles sont beaucoup plus actives quand elles sont mélangées. Donc, si on apporte une diversité alimentaire, on va avoir une action de synergie des vitamines, ce qui fait que les vitamines, elles vont être à 100 fois dans leur capacité vitaminique, quoi. Donc, c'est important. Et donc, ces vitamines et minéraux sont particulièrement importants, notamment pour la santé mentale. Par exemple, les vitamines du groupe B qu'on peut retrouver dans les légumes à feuilles, les céréales, on les retrouve notamment dans tout ce qui est féculents, les légumineuses, sont essentielles pour la production de ces neurotransmetteurs. De même que les oméga-3 trouvés dans les poissons gras, on l'a vu tout à l'heure, sont liés, pas que dans les poissons gras, on les retrouve dans l'huile de colza, dans certaines graines comme les amandes, les noix, etc. Beaucoup les noix. C'est lié à une réduction du risque de dépression. Il y a des études qui le montrent, qui le prouvent. Donc, l'équilibre et la variété alimentaire sont essentiels pour une alimentation qui favorise la santé mentale. Et justement, les régimes restrictifs, moi je fais toujours un lien, provoquent ce qu'on appelle un stress pour le corps qui se retrouve en carence alimentaire. Et du coup, perturbant également le microbiote intestinal. Et nous savons aujourd'hui que le microbiote intestinal est impacté dans la dépression, qui, je le rappelle, tout ce qui est digestif, le microbiote intestinal émet en fait des connexions permanentes avec notre mental. Donc, s'il est en mauvais état, notre santé mentale sera impactée forcément. De même que le stress métabolique généré peut se généraliser de façon générale Sans oublier, bien sûr, que l'hydratation, une hydratation ajustée, est très importante car la déshydratation affecte négativement l'humeur et la concentration. Donc, c'est pour ça que la diversité alimentaire est très importante.
Ah oui, alors c'est pas forcément quand on déprime, c'est pas forcément parce qu'on rentre dans l'hiver et qu'il va pleuvoir. Ça peut être aussi parce qu'on a mangé des trucs ou elle a pas mangé justement ce qu'il fallait. Voilà.
Exactement, exactement. Ça a un impact considérable sur notre santé mentale.
Mmh. Est-ce que, Déborah, les aliments de saison, par exemple, ont aussi leur importance? Le fait de se dire, eh ben, tiens, par exemple, je vais manger des fraises. Alors, c'est pas la saison. Est-ce que ça pourrait aussi avoir un impact sur le cerveau, ça?
Je ne pense pas, parce que en fait, l'impact. Alors, oui et non, je dirais, parce que quand on mange des fruits de saison, on va avoir davantage de goût, et donc si on a plus de goût, on a plus de saveur à manger, donc on a plus de plaisir, et donc on peut sécréter davantage de neurotransmetteurs. Mmh. Donc oui et non. Après, on peut. On ne peut pas tout le temps le faire, on ne peut pas tout le temps manger de saison, mais surtout à Paris, enfin en tout cas si on vit à Paris, c'est pas évident.
Oui, 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 non, mais c'est vrai que d'autant qu'à Paris, il y a beaucoup de choix, donc on pourrait très bien dire, ah ben tiens, je vais manger des kiwis, sauf que ce n'est pas du tout la saison, mais comme il y en a, parce qu'on nous en propose, voilà, c'est dans cela que vous dites, c'est pas évident, parce qu'il y a de tout.
Bien sûr.
C'est vrai qu'à Paris,
bien
si sûr. On veut aller manger un fruit, un kumbat ou je ne sais quoi, qui n'est pas du tout produit chez nous, c'est vrai qu'on pourrait très bien, donc au final, c'est un plaisir quand même, mais voilà.
Oui, mais ça va pas être le même goût, en fait. Donc, forcément, ça impacte. Mais je pense que ça impactera moins qu'un manque de diversité alimentaire, par exemple.
Oui.
Donc, après, quand on a du mal à manger de saison, on peut aussi acheter du surgelé. Le surgelé, en fait, c'est des fruits de saison qui sont surgelés. Et donc, du coup, ça ne perd en aucun... Ça perd pas de leur saveur ni de leurs nutriments. Et ça permet d'avoir peut-être des fois des goûts différents.
Oui,
après, il ne faut pas que ce soit... si c'est surgelé depuis plus de 6 mois ou même congelé depuis plus de 6 mois... on perd en fait les bienfaits nutritionnels.
C'est important ça ce que vous dites parce que c'est vrai qu'à la base déjà il y a cette espèce de cliché qui pourrait faire penser que c'est surgelé donc c'est pas bon, enfin c'est moins bon qu'un frais, mais alors qu'en fin de compte ils sont récoltés, ils sont tout de suite gelés, on conserve tout ça. Le tout comme vous le dites c'est de ne pas les consommer trop tard en fin de compte.
Et oui, en général, c'est même plus frais que du frais.
Ouais.
Parce que tout est préservé, le froid arrêtant, en fait, la dégradation des vitamines. Après, effectivement, si on dépasse 6 mois de surgélation ou de congélation quand c'est à la maison, bah, forcément, on perd des nutriments.
Oui, oui.
Donc, faut pas non plus que ça fait 3 ans que vous l'avez dans le congélo.
Oui.
Ça sert pas à grand chose.
Oui, oui, non, mais c'est vrai que c'est. En tout cas, c'est important de le dire. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire en conclusion par rapport à cette alimentation et notre santé mentale?
Eh bien, qu'en fin de compte, il est clair que l'alimentation et la santé mentale sont étroitement liées. Notre régime alimentaire peut avoir un impact profond sur notre humeur, notre niveau de stress et notre bien-être émotionnel. Et donc, en travaillant sa relation alimentaire et en choisissant des aliments qui favorisent la production de neurotransmetteurs, et ça, c'est possible de le faire quand il n'y a pas de restrictions, ça peut participer à réduire l'inflammation tout en fournissant des nutriments essentiels à notre santé. Et donc, nous pouvons contribuer à améliorer notre santé mentale également. Donc, la prochaine fois que vous vous demanderez quoi manger, n'oubliez pas que vous nourrissez non seulement votre corps, mais aussi votre esprit. Et donc, n'oubliez pas de vous dire ça aussi quand vous démarrez ou si vous démarrez un régime restrictif.
Très bien. Oui.
Voilà.
C'est important.
La conclusion que je pourrais apporter.
Oui, très bien. Et puis, c'est encore l'objet de tout un tas d'émissions de sujets que vous avez déjà développés, qu'on peut retrouver également, bien sûr, sur les archives de NutriRadio.fr. Merci, Déborah, de nous avoir nourri l'esprit avec vos conseils.
Et, avec grand plaisir.
Et nous allons pouvoir avoir le plaisir de vous entendre la semaine prochaine sur un nouveau sujet qui concerne, bien sûr, nos pratiques alimentaires ou l'alimentation en général. Est-ce qu'on a une idée déjà du sujet ou est-ce qu'on se le garde un peu sous le coude?
On se le garde sous le coude encore.
Bon, on va se le garder au chaud.
Peaufiner.
Voilà, c'est ça. Si vous avez le souhait déjà de réécouter cette émission, vous pouvez le faire sur le site NutriRadio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur NutriRadio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Déborah, on se dit à la semaine prochaine donc.
À la semaine prochaine, merci beaucoup.
Merci Déborah.
Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur NutriRadio.